Si on a deux fois plus de besoins alimentaires et qu'on a un effondrement de la production agricole dans ces zones-là, ben on est mal. Et c'est à partir de ça qu'a été dit dans le dernier rapport et qui est l'objet de l'entrée dans la négociation actuelle sur le climat, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait un réchauffement de plus de 2 degrés par rapport à l'ère industrielle, l'ère pré-industrielle. C'est-à-dire, au-delà de 2 degrés, on a un énorme problème à nourrir l'humanité. C'est-à-dire que le dernier rapport, il reste dans la fourchette 1,5-6 de degrés de réchauffement, mais il dit au-delà de 2 degrés, on est dans un scénario conflictuel parce qu'on aura un énorme problème alimentaire, en sachant par ailleurs, vous le savez, qu'on a un effondrement de la production halieutique. Hein. La production marine, la production de poissons aujourd'hui est en train de s'effondrer. Bon, et donc, on ne va pas pouvoir, avec la production terrestre, assurer l'alimentation de 3 milliards d'habitants en plus si on a un effondrement. Alors, je sais qu'il y a des Marocains dans la salle, j'ai vu dans la liste. Bon, vous avez un net fléchissement la production alimentaire marocaine par rapport aux années 60. Et quand on regarde les courbes de produit intérieur brut du Maroc, c'est très simple, c'est la même courbe que la quantité de pluie reçue par le pays. Et donc là, vous êtes clairement avec cette situation-là. Alors, les conséquences pour l'humanité, donc vous voyez bien que les choses sont quand même graves. Avec le réchauffement qu'on a en ce moment, il est 50 fois plus rapide que la sortie de l'ère glaciaire. On a à la fois un problème de niveau, mais on a un problème de vitesse. Et on a été capable d'analyser quelles étaient les cicatrices sur la planète de la dernière sortie de l'ère glaciaire. Comment ça se passe, ces transitions-là? Vous avez les deux tiers de la biodiversité mondiale dans les montagnes nord-sud, orientées nord-sud. S'il y a une biodiversité aussi forte en Amazonie, c'est pas à cause de la forêt, c'est à cause de la cordillère des Andes. Vous avez un changement climatique brutal. Vous avez des plantes, des bestioles, etc. Tout ça vit avec un temps, une température, un climat donné. Le climat change d'un seul coup. Ben, les plantes, elles crèvent. Bon, et puis derrière, l'ensemble du système, l'écosystème change, et l'habitat et l'ensemble, bien évidemment, des animaux qui vivent de ça suivent derrière. Si cette situation se passe dans un massif montagneux, les choses se passent différemment. Si vous avez des plantes qui crèvent un moment, pendant un certain temps, les piafs, les insectes, etc., ils vont aller porter des graines, des spores, quelques centaines de mètres plus haut, quelques centaines de mètres plus bas. Et si, par exemple, c'est un réchauffement, eh bien, les graines vont se retrouver semées quelques centaines de mètres plus haut. Et la plante va se remettre à recoloniser cette zone-là, où elle n'était pas implantée auparavant, parce que ça correspond à ses conditions de vie. Et donc les plantes, si je puis dire, se déplacent sur les flancs de montagne en quelques centaines de mètres avec le renfort des insectes et des oiseaux. Et puis si cette montagne est orientée nord-sud, ben c'est une autoroute à espèces. Les espèces peuvent se déplacer en altitude et peuvent se déplacer par le même phénomène en latitude. Donc vous avez les deux tiers de la biodiversité mondiale dans les montagnes nord-sud. Donc c'est la cordillère des Andes et les rocheuses américaines, c'est le rift africain et c'est Madagascar qui ont l'essentiel de la biodiversité mondiale. Et si vous voulez regarder les choses pour la France, vous avez les deux tiers des espèces en France dans le département, représentées dans le département des Alpes-Maritimes, de la mer au glacier, espèce à tous les étages. Hein. Donc, vous avez là une perception de comment le problème se pose. Alors, ce qu'il faut bien évidemment comprendre, c'est que cette affaire de changement climatique va avoir, bien sûr, des conséquences considérables qu'il faut aussi analyser d'un point de vue social. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur la montée des eaux, mais vous savez que le niveau de la mer va monter à cause du réchauffement. N'oubliez pas que vous avez 250 millions d'habitants qui habitent sur une altitude inférieure à 1 mètre. Bon, donc 250 millions d'habitants qui, à échéance, disons, d'un gros siècle, vont devoir déménager. C'est pas rien, 250 millions d'habitants. Alors, là, vous avez la répartition des émissions depuis le début des années 70 par grand type de pays. Bon, vous voyez le poids grandissant, bien sûr, des pays en développement. Et ça, c'est pas une surprise. Vous avez ici la répartition des émissions par habitant. Alors, vous voyez, les petits bâtons sur l'axe des X, c'est la population des pays. Et puis, sur l'axe des Y, c'est les émissions par habitant. Donc, vous avez les énormes écarts d'émissions qui existent entre les États-Unis, les pays industrialisés, vous avez la France de positionner, et puis l'ensemble des pays en développement. Vous avez là le problème tel qu'il nous est posé dans sa distribution géographique. Alors là, vous avez, un peu dans le même sens que les graphiques de Jean-Luc tout à l'heure, vous avez le panache des scénarios futurs d'émissions en fonction de scénarios économiques, de choix d'énergie, de niveau d'efficacité énergétique qui ont été faits donc en 2001. De nouveaux scénarios vont être faits pour le prochain rapport qui sera publié en 2013. Donc vous avez des scénarios qui essayent d'aboutir vers une réduction très rapide des émissions, et puis vous avez des scénarios qui restent tendanciels. Vous voyez bien que ce panache de scénarios, c'est ça qui fait l'essentiel de l'écart entre le 1,5 degré et le 6,5 degrés sur l'horizon 2100. Alors, on a maintenant déjà l'essentiel des premières conclusions du rapport qui sera celui de 2013. La grande avancée par rapport au rapport de 2007, c'est que jusqu'en 2007, on regardait les effets uniquement jusqu'en 2100. Là, on regarde maintenant les effets sur le climat terrestre jusqu'en 3000, pour voir comment, si on dérape, quelle est la vitesse et les conditions dans lesquelles on va pouvoir rétablir les affaires. Là, vous avez le même type de graphique que le précédent, avec des petits bâtonnets qui sont sur la droite, qui vous expliquent, qui abordent la question de l'incertitude. Hein, quelle est, dans chacun des scénarios, les variations, parce qu'on est sur des choses quand même extrêmement compliquées, et vous avez donc là l'écart entre le 1,5 degré et le 6, vous les avez sur ces bâtonnets-là. Alors, cette deuxième image est la deuxième image importante à vous montrer sur le sujet, après celle de 1985. Et je dirais, avec celle de 1985 et avec celle-là, vous savez tout. Vous avez là une projection à trois siècles. Deux courbes, une rouge, une bleue. Trois graphiques, les émissions de CO2, sa concentration dans l'atmosphère et la température qui en résulte. On va partir de la gauche et de la courbe rouge. Un scénario tout simple, qu'est-ce qui se passe si l'humanité, à partir de 2000, émet toujours la même quantité de gaz carbonique? On reste sur le même niveau. Notez que c'est pas si simple, si facile que ça à faire. D'abord parce que vous avez des pays en développement aujourd'hui qui émettent peu, donc forcément s'ils se développent, ils vont émettre davantage. Vous avez d'ici 2060 3 milliards de personnes qui vont venir à table en plus. Et donc si vous êtes sur une courbe stable, ça veut dire que déjà les pays industrialisés compensent par la réduction de leurs émissions les émissions supplémentaires des pays en développement et des populations qui vont venir nous rejoindre. Bon. Donc c'est déjà pas très simple. Graphique du milieu, vous avez la courbe rouge qui grimpe. Alors pourquoi grimpe-t-elle? Pour une raison qui est en fait le truc le plus terrifiant de l'affaire, c'est que le temps de séjour moyen du CO2 dans l'atmosphère, c'est 120 ans, en moyenne. C'est-à-dire que si vous émettez aujourd'hui du CO2, dans une activité diverse, eh bien, vous allez agir sur le climat jusqu'en 2130. Hein, c'est ça la constante de temps. Imaginez qu'on soit dans un cas complètement différent. On a le même phénomène, mais le CO2 a la délicatesse de rester qu'un an dans l'atmosphère. Alors à ce moment-là, vous avez Sarko qui monte à la télé, mais qui dit, écoutez, on a un gros problème, serrage de ceinture. Vous vous démerdez, mais pendant un an, vous émettez quasiment plus de CO2. Tout le monde rechigne, on émet très peu de CO2, le climat qui avait dérapé, un an plus tard, ça y est, pouf, il est revenu dans sa situation de départ. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Et l'analyse qui a été faite dans le dernier rapport maintenant, parce que quand je vous dis 120 ans, c'est la moyenne. Si on est dans un scénario de dérapage dans le 21e siècle, en l'an 3000, on n'a rattrapé que la moitié du dérapage. C'est-à-dire qu'on est sur des constantes de temps absolument considérables. Alors, plus la quantité de gaz carbonique est importante dans l'atmosphère, ça se comprend bien, plus le temps de séjour s'allonge. Parce que la biomasse mondiale, elle ne peut pas en aborder, en absorber par la photosynthèse plus qu'une certaine quantité. Donc plus le problème dérape, plus la constante de temps devient difficile. Et donc à ce moment-là, dernière image sur la droite, eh bien la température grimpe et en gros on a perdu le contrôle du climat terrestre dans cette hypothèse rouge. Alors, donc il faut regarder maintenant l'hypothèse bleue. Alors, ça, c'est le graphique qui avait été fait en 2001. Dans le dernier rapport de 2007, ils ne l'ont pas refait de cette forme-là, et j'ai pas passé commande à une boîte de com pour m'en faire l'image. Alors, je vais vous donner sur la courbe bleue les valeurs qui sont les valeurs du dernier rapport. Alors là, on va partir de la droite. Température. Le dernier rapport dit pas plus de 2 degrés. Donc vous avez la courbe bleue qui s'aplatit à 2 degrés et qui ne dépasse plus 2 degrés de réchauffement. Si on veut stabiliser la température à pas plus de 2 degrés, graphique du milieu, il faut que la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère, elle s'aplatisse sur une valeur et qu'on ne la dépasse pas. En fait, il ne faut pas qu'on dépasse la valeur de 450. Là, le graphique avait été fait sur 550. Donc il faut qu'on soit plus bas. Sachant qu'on est déjà à 384. Et graphique de gauche, c'est la tronche de la courbe d'émissions auxquelles on a droit. Vous avez une petite bosse. Pourquoi ? Parce que depuis le protocole de Kyoto, année de départ 1990, on a encore augmenté les émissions d'un tiers. Alors, l'Europe diminue les siennes. Mais l'Inde, la Chine et même les États-Unis ne le font toujours pas. Donc on est encore dans un scénario d'augmentation. Et donc le débat, alors que le même mot qu'employait Jean-Luc tout à l'heure, il faut qu'on ait un pic et puis qu'ensuite qu'on descende du pic. Et donc le rapport de 2007 dit le maximum admissible c'est 2015. Bon. Et à partir de 2015, il faut que ça plonge et que ça plonge vite. Et l'objectif derrière, c'est une division. Alors la baisse est bien plus accélérée que sur ce dessin-là. Le chiffre qui nous est donné derrière, c'est nous devons diviser par deux les émissions mondiales d'ici 2050. Bon. Et ensuite, après ça, vous avez une courbe qui s'aplatit. L'humanité n'envoie plus dans l'atmosphère plus de gaz carbonique que la nature sait en absorber. Bon. Alors cette espèce de vague bleue que je vous présente là, a une portée tout à fait considérable. Bon. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'on est réellement dans un changement de civilisation. Alors ça s'ajoute au diagnostic que faisait Jean-Luc sur l'énergie. Et il faut qu'on change complètement notre vision du monde dans notre tête. Vous avez repéré qu'on est dans une planète qui est la seule habitable du coin, que l'humanité va finir sa croissance démographique en 2060, la population humaine aura été multipliée par 10 entre 1800 et 2060. Et que le cahier des charges qui est devant nous et qui change complètement notre manière de penser le monde, c'est que l'humanité va devoir, pendant plusieurs siècles, plusieurs millénaires, avant qu'il ait trouvé une autre solution, et je ne suis pas sûr qu'on arrivera à déménager tout le monde quelque part. Le cahier des charges qui nous est posé, c'est qu'on doit se marier avec notre planète. L'humanité doit entretenir la planète qui la supporte. Son destin va pouvoir être agréable si elle gère les ressources, qui ne sont pas infinies, si elle gère l'environnement et qu'elle le reconstitue et qu'elle le stabilise. Et donc, nous ne sommes plus dans les deux siècles précédents d'augmentation des capacités productives. Nous sommes dans l'optimisation de notre relation à notre planète. C'est ça le grand basculement. Et ce grand basculement, il a, dans une espèce de théâtralisation avec cette question du changement climatique, vous avez une date et vous avez un niveau. C'est-à-dire que le point de passage, c'est 2050. 2050, on doit avoir divisé par deux les émissions de gaz à effet de serre. Si on ne fait pas ça, vous avez bien compris qu'on rentre dans un scénario de conflit. Parce qu'à ce moment-là, ça va être la bataille pour avoir le droit de consommer de l'énergie et d'émettre du CO2, et que tout ça est considérable. Alors, là, je vous ai mis, si vous voulez qu'on en discute, je ne vais pas le traiter tout de suite, là où il y a des certitudes, là où il y a des variables. Parce que peut-être que certains d'entre vous seront intéressés à savoir quelle est la nature des polémiques qui existent sur le sujet. Mais je vais le passer. Je vais venir rapidement aux conclusions politiques et conclusions de gouvernance que tout ça nous pose et qui sont bien évidemment majeures. Bon, d'abord, encore une fois, ce qui s'est fait à Kyoto, c'est l'instauration d'un rationnement. Et ce qui va se faire à commencer à Copenhague, je suis pas sûr qu'on finisse à Copenhague, ça va être, on va resserrer encore les boulons du rationnement. Nous ne sommes plus dans une ère d'expansion. Nous allons être dans une société industrielle, mais plus dans une société d'expansion. Et quelque part, vous aurez dans les livres d'histoire que vos petits-enfants apprendront, que toute l'humanité a été confrontée à la rareté pendant des millénaires, jusqu'en 1740. 1740, on rentre dans l'ère industrielle parce que M. James Watt invente la machine à vapeur. Donc on va chercher de l'énergie, etc. On rentre dans une période d'expansion. Et cette période d'expansion date de clap de fin, 1997, protocole de Kyoto. Nous revenons, non pas dans une société non industrielle, mais nous venons dans une société dans laquelle on doit organiser la répartition des choses et on doit organiser la gestion de la planète. Donc c'est un événement tout à fait considérable. Alors, c'est un retour du politique, c'est un mouvement de re-régulation. Là, c'est des sujets qu'on verra cet après-midi avec la question de la gestion de l'énergie, l'articulation entre l'action publique et le marché. Vous voyez qu'on est déjà là, très très proche de ce sujet. C'est le retour du débat Nord-Sud. Alors, vous êtes sur un sujet qui a une particularité, c'est la première question politique totale de l'histoire humaine. C'est fort de dire ça, hein. ça y va, hein. Pourquoi ? C'est la première question planétaire à solidarité obligatoire. Il y avait déjà des questions planétaires. Le sida est une question planétaire, par exemple. Ou la fin dans le monde. Mais vous savez que chaque pays a géré ça plus ou moins de son côté et sans s'occuper trop du voisin. Le climat qu'on a en France, avant, il était fait par la nature. Et si maintenant, on le change ? Le climat n'est pas fait par les Français. Vous pouvez être en France les gens les plus vertueux qui soient, si les autres à côté continuent d'émettre du CO2, ça change le climat en France. Il n'y a pas de souveraineté climatique nationale. La souveraineté climatique n'est que collective à l'ensemble de l'humanité. Donc vous êtes sur un sujet sur lequel la réussite ne peut être que collective. Donc vous êtes sur un sujet à solidarité obligatoire. Alors, autant vous dire que c'est en train de changer complètement les institutions internationales. Le sujet qui va être à Copenhague, et ça va être d'une violence dont vous n'imaginez pas comment les choses se passent. Hein. Donc moi, je suis les négociations et je suis conseiller des 53 pays africains dans la négociation. Donc, alors, en complicité, bien sûr, avec les Français. Tout ça est très, très difficile. Vous voyez bien qu'on est dans un sujet sur lequel ce qu'un pays fait chez lui, en termes énergétiques, en termes économiques, en termes environnementaux, n'est plus une politique nationale, puisque ça a des conséquences sur les autres. Et donc, vous êtes obligé d'avoir des politiques énergétiques, climatiques, coordonnées internationalement, avec capacité de sanction sur les pays délinquants. Oui, on est complètement sorti de la diplomatie telle qu'on la connaît depuis 1647. Hein. Le système international a été fondé par le traité de Westphalie, et la règle du traité de Westphalie, plus ou moins appliquée, mais qui était une règle simple, c'était « tu fais ce que tu veux chez toi, mais tu n'as pas le droit d'emmerder le voisin ». Bon, c'est-à-dire, un pays pouvait avoir tous les régimes politiques, droits de l'homme ou pas, tel et tel type d'économie ou pas, chez lui, il n'avait pas le droit d'envahir le voisin. Bon, on l'a un petit peu fait quand même, mais en tout cas, c'était ça l'esprit du traité de Westphalie. Cette notion de souveraineté nationale est complètement réécrite par cette affaire-là. Deuxième point du sujet. Alors là, à l'autre bout. Vous faites les statistiques sur la France en termes d'émissions. La moitié des émissions en France, c'est chacun d'entre nous dans sa vie privée. Votre manière de vous chauffer, vos choix alimentaires, vos choix de transport pèsent la moitié des émissions du pays. Bon, et c'est pareil pour tous les autres pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sujet ne peut être traité qu'avec l'adhésion des gens. On ne peut pas mettre un flic derrière chacun pour le contraindre sur son choix alimentaire, sur ses choix de chauffage, sur ses choix de transport. Donc vous êtes devant une exigence culturelle, une exigence démocratique, dans un scénario de succès comme on n'en a jamais eu dans l'histoire humaine. Donc vous êtes sur un sujet politique total. Il faut aller chercher l'adhésion de chacun et il faut coordonner ça collectivement au plan planétaire. Voilà. Le cadeau qui vous est donné. Bon. Avec derrière un constat au passage, c'est que le niveau d'action principal, c'est les collectivités locales. C'est elles qui font les investissements de long terme, les bâtiments, les infras. C'est elles qui organise la localisation des activités sur le territoire, et on a commencé de voir que l'affaire des transports va être une question tout à fait centrale. Donc l'organisation du territoire va être majeure, puis bien évidemment, c'est les collectivités locales qui ont le contact avec le citoyen, et il va falloir se reprendre toute la société française en formation continue sur le sujet. Bon. Donc vous voyez le paquet cadeau qui nous est donné. Alors, j'ai eu affaire, par rapport à la courbe bleue tout à l'heure, c'est qui faisait ça, j'ai eu affaire les scénarios pour la France, c'était pour Raffarin en 2004, et ça donne ça. L'application pour la France de la division par deux des émissions de gaz à effet de serre, c'est pour nous une division par quatre. Hein, donc vous avez le carré bleu sur la droite du graphique, c'est la mission qu'il vous est confié, si vous l'acceptez, et si vous ne l'acceptez pas, ça va mal tourner pour vous. Bon. Donc vous voyez bien que par rapport à 2000, il faut diviser par 4, et par rapport à un tendanciel, si on laissait filer les affaires, en fait c'est une division par 6. Bon. Voilà le cadeau qui nous est donné. Alors pourquoi division par 4 pour la France? Parce que c'est le niveau de performance qu'on doit avoir dans l'entreprise, dans le bâtiment, etc., qui, appliqué à la totalité de la planète, permet que ça passe. C'est-à-dire que les autres pays vont devoir avoir, au fur et à mesure de leur développement, le même niveau de performance que ça. Donc c'est la condition de la paix, ce truc-là. Bon, j'en ai terminé là-dessus. Une devinette pour essayer de vous réveiller. Une information, une question. La France a connu depuis 1973 une croissance économique par habitant de 110%. La question, quelle a été la croissance de la consommation énergétique par habitant? Qui se mouille? Est-ce qu'il y a la possibilité de proposer une double ration de dessert aux gagnants ou... C'est un forfait. Bon, on trouvera une compensation autre. Je vous écoute. Qui se mouille? 110% de croissance économique par habitant. Combien de croissance de consommation d'énergie par habitant? Combien? 200? 0? 80? 50? 110? Alors, le gagnant est 0. Vous êtes d'ores et déjà, alors en fait c'est 2,01%, vous voyez, bon, on n'est pas très très loin, vous êtes déjà dans un pays qui a doublé la richesse par habitant à consommation d'énergie stabilisée. Le virage a commencé. Et là, on revient sur ce que présentait Jean-Luc tout à l'heure, c'est les chocs pétroliers des années 70. Les chocs pétroliers des années 70 nous ont obligés à apprendre à économiser l'énergie. Alors, ceux qui disent 200 ou 300 n'ont pas complètement tort. Pourquoi? Parce que vous avez inévitablement le sentiment que vous avez beaucoup plus d'objets aujourd'hui que vous en aviez dans le passé. Par contre, une voiture dans les années 60, début des années 70, c'était du 9 litres au 100. Hein? Aujourd'hui, vous pouvez acheter la voiture avec du 5 litres au 100, même moins. Bon. Je ne vais pas rentrer dans les exemples sur le bâtiment, mais les bâtiments que l'on fait, notamment l'image qu'a projeté Jean-Luc sur ce à quoi réfléchit EDF, sur les 30 kWh de consommation. Eh bien, une maison neuve construite en moyenne en 1970, c'était 200 kWh. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des maisons qui, au niveau de leur chauffage, ont économisé 85% de la consommation de chauffage entre ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et ce qu'on faisait en standard dans les années 70. Faut qu'on arrête là. Ben non, mais j'ai quand même allé jusqu'à une image optimiste quand même. Hein. Bon, donc vous avez là la règle qui va être celle du 21e siècle. La valeur du 21e siècle va être l'optimisation de l'utilisation des ressources. Ça va être à la fois la valeur morale de comportement personnel, ça va être la valeur technologique d'amélioration d'efficacité des équipements, et ça va être la valeur économique, puisque les ressources étant chères, la manière de calmer le renchérissement des ressources va être l'optimisation donc des rendements, et ceux qui sauront faire ça gagneront économiquement, bien évidemment. Voilà.